premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la photographie à l'occasion du mois de la photo qui s'ouvre ces temps-ci à Paris. Demain, Séverine Liattard et Séverine Cassard nous raconteront l'histoire peu connue des enquêtes photographiques du ministère de la Reconstruction après-guerre ou comment des photographes furent employés aux côtés de sociologues pour rendre compte de l'état de l'habitat en France au lendemain de la guerre. Mercredi, dans la journée des archives, nous nous intéresserons aux sociétés photographiques qui ont milité dès la naissance de cet art pour sa reconnaissance institutionnelle. Jeudi, notre débat portera sur le rapport que les amateurs et les professionnels de la photographie ont établi depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Huguier. Bonjour Françoise Huguier, qui depuis 40 ans a porté successivement son regard sur la société japonaise, sur la mode, sur l'Afrique subsaharienne, sur la Russie d'après la chute du mur, à travers des intérieurs, les intérieurs de ceux qui y vivent. Elle poursuit encore ce travail en Asie ces temps-ci, à Kuala Lumpur, Bangkok et Singapour, pour une exposition à l'Institut de France à Paris, pour laquelle elle réfléchit à ces classes moyennes montantes de ces pays qu'on surnomme les tigres asiatiques. Qu'est-ce que la photographie a à voir avec le passé, avec l'histoire? Ce sera une des questions qu'on abordera avec Françoise Huguier, mais également avec son invité, puisque vous le savez, à partir de 9h30, elle invite un invité à elle que je ne connais pas et que nous découvrirons ensemble. Alors, Françoise Huguier, qu'est-ce que l'histoire a à voir avec la photographie? Et est-ce que l'histoire a à voir avec la photographie?
Je crois que c'est l'une des premières choses, parce que les photos... Moi, je cite des exemples par rapport à moi. Par exemple, les appartements communautaires de Saint-Pétersbourg, c'est complètement dans l'histoire et ça restera dans l'histoire. Ces appartements communautaires ont été à peu près... les appartements ont été réquisitionnés à peu près après Lénine, au début de Staline, et donc avant la guerre, pour loger des gens de la campagne qui venaient travailler dans les usines. Et l'État n'avait pas les moyens de construire des immeubles. Donc on a réquisitionné des immeubles, des appartements, des grands appartements. Les Russes appelaient ça « tasser le bourgeois ». J'adore cette expression.
Comment ? Tasser le bourgeois. En fait, les propriétaires anciens pouvaient rester dans ces appartements.
Tout à fait. On leur disait, vous gardez deux pièces.
Voilà.
Et puis, on va loger d'autres personnes. Et vos domestiques, c'est pareil, parce qu'en général, les domestiques avaient des chambres en haut, dans les derniers étages. Donc, vous logerez aussi vos domestiques, mais vous pouvez rester. Vous imaginez, arriver dans un appartement du 16e, maintenant ou même il y a 10 ans, faisant ça. Moi, j'ai lu des textes justement de gens qui disaient, ou même j'ai rencontré des gens qui disaient, mais ils avaient de l'argenterie, donc ils les mettaient où? Dans les placards, dans la cuisine, donc évidemment tout était piqué. Et il y avait quelque chose quand même. C'est que les gens qui faisaient de l'artisanat, par exemple les femmes qui faisaient des chapeaux, qui étaient couturières, ou les architectes avaient droit à deux pièces.
Alors vous êtes intéressé, donc, après la chute du mur, ces appartements communautaires.
Voilà. Et j'ai connu tout à fait par hasard, parce que quand j'ai commencé le travail sur la préparation du travail en route pour Bering, c'est-à-dire au-dessus du cercle polaire, en allant de l'Oural jusqu'au détroit de Bering, je voulais rencontrer les ethnologues de la région. Ils sont à Saint-Pétersbourg. Et donc, j'y étais, mais bien avant que je fasse ce travail, j'y étais donc 10 ans avant.
Au musée ethnographique de Saint-Pétersbourg, qui est le plus grand musée.
Et chez eux, ils m'invitaient chez eux, et eux habitaient dans des appartements communautaires. Parce que souvent, on me dit, mais c'est dans un état déplorable. Oui, mais c'était dans un état déplorable, mais toutes sortes de populations habitaient. Il y avait des médecins, il y avait des chercheurs, il y avait des savants, comme disent les Russes, il y avait des philosophes, il y avait des peintres, il y avait des gens qui travaillaient dans des boutiques, il y avait des retraités. Donc c'était une population quand même qui était à l'image de la société soviétique. Et quand moi je suis arrivée en 2001... Il y en avait encore plus de 100 000. Il en reste quand même beaucoup encore maintenant. Et donc, petit à petit, en rentrant... Moi, ce que j'aime à chaque fois que je fais un travail comme ça, ce que j'aime, c'est que les gens me racontent leur vie et leur histoire. Et alors, justement, dans ces appartements communautaires, c'est extraordinaire parce que j'ai l'appartement que j'ai filmé là, il y avait un ingénieur qui était à la retraite, et lui, son père est de Saint-Pétersbourg, donc de Leningrad, et il était médecin militaire, envoyé en Sibérie pendant la guerre, après revenu, envoyé en Géorgie, si bien que lui me racontait toute l'histoire, et en photo aussi, parce qu'il avait les photos sur son frigidaire. Il n'y avait pas d'album sur son frigidaire. Donc, il me racontait toute l'histoire de sa famille et de ses grands-parents et de ses parents. Et je revoyais... Moi, je me suis toujours intéressée à l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. J'ai trouvé ça passionnant. Et donc là, je revoyais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que je photographiais quelqu'un dans une chambre, à chaque fois, on me racontait l'histoire de l'Union soviétique.
Mais comment, c'est ça l'histoire. Et comment ça s'imprime sur du papier photographique tout ça? C'est-à-dire comment cette histoire qu'on vous raconte, comment cette charge, parce que c'est une véritable charge historique que vous raconte chacune des personnes, soit avec qui vous vivez, soit auprès de qui vous allez vous enquérir de cette histoire-là, comment ça se charge sur votre pellicule?
Ça se charge par les natures mortes, beaucoup, les portraits des gens, évidemment, même la manière dont ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils ont sur le mur?
Le décor,
les meubles, parce qu'il y a des styles aussi en Union soviétique, il y avait des styles. Donc on voit, suivant les meubles, à quelle époque ils ont acheté ces meubles. Sur les murs aussi, il y a les photos de famille évidemment, mais sur le mur, parce que je me souviens chez Anatoly, il y avait un portrait de Sakharov. Ça dit quelque chose, quoi.
La dissidence.
Je ne suis pas sûre que ça dise quelque chose maintenant pour des gens. Mais bon.
Ça disait quelque chose.
Donc il y avait toujours. Ah oui, il y avait. Dans la cuisine commune, je me souviens, il y avait au-dessus d'une gazinière, parce que dans la cuisine commune, chaque chambre a deux feux d'une gazinière. Et il y avait un portrait de Brejnev. Bon, Brejnev était mort. Donc je dis à la dame qui m'emmène dans sa cuisine et devant sa gazinière, je dis, mais vous avez un portrait de Brejnev. Ah, moi j'adore Brejnev. Nous on en était à Helsinki. J'adore Brejnev et tout. Donc elle m'a raconté toute l'histoire de Brejnev et comment c'était à l'époque et tout. Et son amour pour Brejnev. Et puis, il y en a une autre que j'ai photographiée aussi, qui me parlait de son mari, qui me présentait son mari en me disant « Je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il avait des sourcils à la Brejnev. » Et ben, c'était un critère d'esthétique. Et là, effectivement, vous apprenez.
Ça dit quelque chose. Alors, comment êtes-vous passé de la jeune photographe qui, dans les années 70, travaille pour Beaubourg à ce travail-là, donc en particulier ce travail sur les intérieurs, sur l'intérieur aussi de ceux que vous rencontrez, cet intime que vous allez côtoyer très rapidement, en passant par un tout autre domaine de la photographie, qui est la photographie de mode, dont vous avez été une des grandes prêtresses, pourrait-on dire, dans les années 80 en particulier. Qu'est-ce qui fait le lien entre tout cela, ce travail donc de photographe pour Beaubourg dans les premiers temps, la photographie de mode ensuite, et puis ce travail plus progressif, et on peut dire que vous faites ça maintenant depuis pas mal d'années, Françoise Huguier, sur les intérieurs, les chambres à coucher, sujet très intéressant pour tous les historiens, et ça n'est pas simplement Michel Perrault qui pourrait nous le dire. Qu'est-ce qui fait le lien de tout ça?
Alors, la mode, c'est un hasard. C'est-à-dire que j'étais partie à Tokyo avec Serge Danet pour Libération.
Il voyait déjà l'Asie comme étant en train d'exploser.
En train d'exploser et qui parlait avenir. De la classe moyenne, oui, c'est ça, et notre avenir. Et nous avions rencontré, moi j'avais dit à Serge, ce serait. Serge était formidable parce qu'il touchait le tennis, il touchait la mode, l'intéressait aussi. Donc je lui dis, ce serait bien qu'on rencontre Issey Miyake. Mm-hmm. C'est quand même un dieu de la mode. Et en plus, une culture évidemment extraordinaire. Et puis surtout, un Japon intime, de tradition. Et donc Serge me dit, ben oui, pourquoi pas. Donc on a rencontré Issey Miyake. Et puis, il se trouve, c'est toujours des rencontres en photo, il se trouve que quand il y a eu son défilé à Paris, il m'a invité. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, quand Libé s'est décidé, de longues tergiversations, s'est décidé à faire de la mode, parce que ça n'a pas été évident à Libé. Bah,
c'était un tournant idéologique.
Et du coup, les trois mousquetaires, qui sont Gérard Lefort, Michel Crestol et Maud Molineux, qui sont malheureusement tous les deux qui nous ont quittés, on est partis pour faire les défilés. Et évidemment, moi, je connaissais rien du tout en mode. Je passais mon temps à me faire virer de défilés parce que c'est une vraie mafia, mm-hmm. les photographes qui sont sur les défilés. Donc moi, j'arrivais et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire parce que c'est des défilés de mode. En fait, c'est un reportage, hein, quand même, le défilé de mode. Parce que j'ai pas été que backstage, j'ai été devant aussi. Et je me dis, qu'est-ce que je fais devant? Bon, il y a des gens qui regardent. Bon, ils sont bien habillés, mais ils m'intéressent pas. Comment je fais, justement, pour les cadrages, pour que ce soit ailleurs, quoi, que sur un défilé? Et petit à petit, c'est ça qui m'a intéressé. Comme je me suis intéressée aux appartements communautaires, c'est le milieu. Mmh. Les gens qui tournent autour des couturiers, les ateliers, est formidable.
Ouais. Et les essayages,
les filages, la musique, les lumières sur les robes, sur les chaussures et tout. Et puis que c'est de l'ordre de l'éphémère.
Et puis des corps en morceaux.
Les corps en morceaux. Ah oui,
les
ça,
corps en morceaux. Oui. La grande spécialité de Françoise Huguet, voilà. C'est d'avoir démantelé.
Et je me souviens que Christian Quejeune me disait : mais pourquoi tu coupes les têtes tout le temps ? Eh bien, quand les filles défilent, souvent les photographes sont au bout du podium, dans la cage au lion, comme je dis. Et les filles, comme elles savent qu'elles vont être filmées ou photographiées, elles font des sourires. Mais quand elles passent comme ça, elles ne s'arrêtent pas devant moi. Donc souvent, elles faisaient des grimaces. Alors au début, Et puis après, moi, on est passé à l'époque où il y avait les grandes stars, donc Carla Bruni, qui a été Madame Sarkozy maintenant, et Kate Moss. Donc j'ai vécu ces photographies, cette époque-là.
Naomi Campbell.
Et moi, je me suis dit, parce que j'avais des voisins qui étaient intéressés que par ça. Et moi, j'avais un grand plaisir. Donc, je faisais mon cadrage en fonction de ça. Et je coupais les têtes. Donc,
une façon de rester un peu révolutionnaire dans un milieu qui ne l'était pas trop.
Qui ne l'était pas trop, oui. Mais ça,
et en même temps, ça a donné une esthétique.
Ça a donné une esthétique, corps en morceaux, tout à fait.
Ces prises de photos de biais, par exemple. Dos. Beaucoup de dos. On voit les mannequins quitter la scène, partir de loin. Et ça permet aussi de voir le magnifique travail des couturières pour le dos et l'arrière de la robe, par exemple.
Oui, les détails, parce que souvent, on ne voyait pas de détails dans les photos. Les photos qui sont faites, en général, pour les photos comme ça de podium, on ne voit pas les détails. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les détails. Bon, j'allais dans les ateliers. C'est un truc fascinant, quoi. Et puis, chez les gens, il y a Massaro qui faisait les chaussures près de la place Vendôme pour Marlène Détriche, mais qui faisait les chaussures pour Chanel, pour Alaïa et tout. Et c'est extraordinaire parce que c'est des petits ateliers. Il y avait aussi un autre atelier aussi où ils faisaient les bijoux et ils ont commencé pour faire les bijoux de Chanel. Et là, il y avait des moules, on en aurait dit des coquillages. Mmh. Enfin, c'est plus les gens qui travaillent, qui sont des gens formidables. C'est et ça, c'est l'histoire de la France. Mmh. C'est quand même un savoir-faire français qui est unique, j'arrête pas de le dire, et qui est unique. Ces ateliers-là, c'est unique. Les ateliers de haute couture, c'est unique.
Mais on a l'impression, c'était aussi de savoir-faire à savoir-faire, puisque vous êtes encore une, non pas des rares, puisque vous êtes nombreux à le faire, mais une de celles qui continue à travailler en argentique, qui continue à tirer ses photos donc autrement que numériquement, avec des tireurs professionnels, etc. Il y avait aussi, j'imagine, entre vous et ces gens des ateliers, un dialogue qui pouvait être un dialogue d'artisan.
C'est très important. C'est très, très important. Parce que on a eu une époque, mais elle continue toujours, même avec le numérique. Hein. On a eu une époque, moi j'allais dans un laboratoire, je suis arrivée toute petite parce que c'était le laboratoire où il y avait Magnum, donc j'avais honte de mes photos, et qui était Publimode, qui maintenant c'est devenu un laboratoire qui s'appelle l'Atelier Publimode. C'est un des derniers qui fait de l'argentique. Et il y avait... moi, j'allais auprès du tireur, mais les tireurs, c'est des grands personnages. Moi, quand Frédéric Mitterrand a été ministre, je lui ai dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se perdre, et c'est un métier d'art. Mmh. Et il faudrait qu'ils aient le statut de métier d'art. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup qui font de l'argentique. Mmh. Et là, c'était extraordinaire, parce que je me souviens, sur les tirages de l'Afrique fantôme, c'était Jean-Pierre Leloir qui tirait mes photos chez Publimode, donc on était dans le noir, et il y avait son maître qui était Jules Smets, qui est malheureusement disparu aussi, et qui et tout d'un coup il y avait c'est la fameuse photo du chameau.
Alors, la photo du chameau, on peut la décrire pour nos auditeurs.
C'est
donc une photo où un grand
vide. Il y a un grand vide.
Un grand vide le long du Niger. Et sur la gauche de la photo, on voit
un chameau
au dernier plan et au premier plan, le dos d'un piroguier.
D'un piroguier, oui, d'un bozo piroguier. Et donc, cette photo-là, et puis tout d'un coup, Jules me dit. Et puis, on avait tiré juste avant une magnifique jeune femme Peul. Et Jules me dit. Oh là là, mais dis donc, mais comment je peux faire pour épouser une femme comme ça? Alors je lui dis, attends, ça va te coûter très très cher en chameaux. À mon avis, il faut que tu apportes 300 chameaux. Et encore, je ne sais pas si ça va suffire. Bon, c'était des dialogues comme ça, c'est-à-dire que c'était extrêmement agréable. Mmh. Et en même temps, une espèce de lutte, parce qu'il y a des tireurs qui aimaient bien tirer plus foncés, plus avec des gris plus prononcés. Parce qu'il y a aussi la gamme de gris qui est très importante. Mmh. Donc, parce qu'on avait des papiers... moi, j'ai revu ce matin, par exemple, très tôt, j'ai revu ce matin des papiers, des tirages qui ont été faits justement avec l'ACFA Brovira, qui n'existe plus, c'est terminé. Et c'est d'une qualité, parce qu'il y avait une teneur en argent. Qui maintenant ça n'existe plus quoi.
Alors il y a ce travail.
Donc, oui. Oui.
Donc pour terminer sur ce travail des tireurs justement et sur ce travail d'artisanat,
c'est très important.
Cette capacité qu'on a entre artisans,
c'est ça,
à dialoguer entre
c'est
vous.
C'est très très important.
Alors artisans de la photographie, mais artisans de la mode aussi j'imagine. C'est-à-dire une capacité à dire des choses qu'on peut comprendre parce que on pratique l'artisanat.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans les ateliers. Par exemple, j'étais souvent dans les ateliers de Christian Lacroix, puisque je l'ai suivi pendant longtemps. Et là, effectivement, moi, un jour, j'ai découvert que toutes les boutonnières étaient faites à la main. Donc, les boutonnières ou que les robes, il fallait 600 heures pour faire une robe du soir. Donc, moi, j'ai appris tout ça en faisant les photos. Quoi. C'était...
Alors, vous évoquez votre travail sur l'Afrique fantôme. Donc, d'après le travail de Michel Léry, c'est une traversée de Dakar au Soudan, donc de l'Afrique. Ça, c'est un travail, évidemment, qui vous a permis de sortir de ce milieu de la mode en même temps, de devenir... Alors quoi, vous étiez grand reporter, c'était même pas du grand reportage, parce que c'était l'histoire que vous alliez chercher là-bas aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en partant sur les traces d'un ethnologue comme Michel Léris, d'un écrivain, d'un styliste comme lui, vous faisiez un travail de regard
que
du
c'est
changement.
Que 50 ans après.
Qu'est-ce que le changement a
Qu'est-ce
fait
Qu'est-ce que c'est que 50 ans après.
Et donc l'histoire est toujours présente là aussi.
Oui,
comme pour les appartements communautaires.
Pareil.
Et que fait le temps sur ces individus et sur ces paysages?
C'est exactement ça. Parce que sur les traces de l'Afrique fantôme, Michel Ries était les rites de possession, il était très intéressé par ça. Donc il y en avait au Mali et il y en avait aussi en Éthiopie, le Zar. Et ce qu'il appelle le Zar. Et au Mali, donc, je n'ai eu de cesse que de trouver ces rites de possession. Qui, je peux vous dire, maintenant ont pratiquement disparu, parce que l'islam faisant, c'est pas très bien vu. Et là, je n'ai eu de cesse que d'assister à ça. Et effectivement, je crois que c'est ce que j'ai photographié, c'est les dernières années, il n'y en a plus du tout. Donc c'est un témoignage de l'histoire, quoi.
Oui, on sent chez vous, c'est pour ça que c'est intéressant de vous interroger dans une émission d'histoire, cette attention à la fuite du temps, c'est-à-dire la captation comme ça du moment, parce que vous vous dites, dans une seconde, ça ne sera plus là.
Oui, c'est ça. Je n'y pense pas forcément à ce moment-là.
Non, mais...
Mais c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui ressort de... c'est vrai, de mon travail. Et les appartements communautaires, le film que j'ai fait, la Communalka, je suis très frappée, j'ai des demandes de faculté d'architecture du monde entier. Parce que ça a été un moment historique de l'habitation. Mmh. Pour parler du travail que j'ai fait, par exemple, les HDB de Singapour.
Oui, donc les HLM, accession à propriété.
Accession à la propriété de Singapour.
Ça, c'est la dernière exposition qui a lieu à l'Institut de Paris.
Lee Kuan Yew, quand il a pris le pouvoir à Singapour, moi, j'ai été à Singapour il y a 30 ans. Il n'y avait pas un seul immeuble et un début d'HDB. Parce que les Malais, il y a trois communautés. Donc, les Malais, les Indiens et les Chinois. Les Chinois étant majoritaires. Donc, quand Lee Kuan Yew s'est séparé de la Malaisie et a pris le pouvoir, donc, il a fait venir un architecte de Baos pour ses constructions, avec des quotas. Parce qu'il voulait supprimer les villages qu'on appelle les kampung. Les Indiens étaient dans le quartier indien et les Chinois dans le quartier chinois, qui étaient des véritables taudis. Donc, comme Lee Kuan Yew, on a la réputation cliché de Singapour, très propre, etc.
Ville de l'hygiène.
Ville de l'hygiénisme. Donc, il n'a eu de cesse. Donc, il a fait venir un architecte du Baos et qui a été son conseiller allemand, Et ce qui a donné les HDB.
Que vous avez photographié
récemment. Que j'ai photographié, parce que 95% de la classe moyenne habite dans ces HDB avec le quota. Donc chinois, indien et malais.
Ça veut dire que même quand on photographie du très contemporain, comme vous le faites en l'occurrence, il y a une histoire derrière. Il y a l'histoire derrière,
Il y a la grande histoire derrière.
Et pour les photographier, ces photos, il faut la connaître, cette histoire. Il faut se la faire raconter, comme vous le disiez, pour les communalcas.
C'est indispensable.
Parce que sinon, on fait de mauvaises photos.
Moi, je pense, oui. Je pense, c'est pas qu'on fait de mauvaises photos, mais on n'est pas imprégné. Je pense que si on n'est pas imprégné, on fait de mauvaises photos. Si on n'est pas en profondeur dans notre... si on ne va pas en profondeur. C'est pour ça que je prends du temps à faire les choses. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et comment ça s'est fait. Et là... À ce moment-là, je me dis, et c'est là où arrive la créativité du cadre, de la lumière, comment on organise sa photo et comment...
Ça ne vient qu'après.
Oui.
C'est une sorte de travail préparatoire.
J'ai besoin de voir d'abord. Voilà. Il faut voir. C'est un travail préparatoire.
Mais d'ailleurs, il faut voir aussi et accepter, faire accepter à ceux qu'on veut voir de vous ouvrir leurs portes.
Ça, ce n'est pas facile.
C'est-à-dire que quand on va dans des pays comme le Mali, pour accéder à la chambre à coucher, ça n'est pas si simple que ça.
Oui, mais je dois avoir... alors, il y a des techniques. Il faut savoir qu'au Mali, quand on arrive dans un village, il faut aller voir le chef du village. Mmh. Alors, le chef du village, il faut apporter un petit sac de un petit plastique de thé, un petit peu de thé vert et un peu de sucre. Mmh. Et là, on fait le thé. Et le thé, ça peut durer 5, 6 heures, 7 heures. C'est les 3 thés au Mali. Et là, ça j'ai appris ça dans le livre de Léris. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, le chef du village m'observe. Et moi, je l'observe. Donc c'est un espèce de rapport comme ça. Puis il y a tout le village qui est là. Donc tout le monde m'observe. Comment je marche, comment je suis, comment je réponds, etc. Je dis quelques mots de Bambara. Donc ça aussi, ça fait partie du jeu. Et à ce moment-là, j'explique... parce qu'ils veulent savoir exactement ce que je vais faire. Donc, j'explique exactement ce que je vais faire. Et alors, à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent. Et la chambre à coucher, bah, je suis une femme. Parce qu'au Mali, donc, il y a la polygamie. Mmh. Donc, les chambres de femmes sont très importantes. L'homme n'est qu'un petit bourdon qui passe d'une chambre à une autre. Donc, moi, je suis une femme. Donc, je peux aller rentrer dans la chambre, le secret des chambres.
Et cela, c'est important. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Ça vous permet de dire, historiquement aussi, donc de témoigner, de garder, puisque je crois que vous dites parfois que vous êtes une gardienne.
Une gardienne, oui.
Qu'est-ce que ça permet de garder que si vous ne le faisiez pas, disons, on ne saurait pas, au bout du compte, Françoise Huguier. Ça dit quoi ?
Ça dit aussi une période, un moment. Par exemple, on parle des chambres des femmes au Mali. Je pense que l'évolution des maisons en terre, on va passer des maisons en béton. Mmh. Et les lits, par exemple, les lits qui sont des lits traditionnels, par exemple, avec un bois ou un roseau, va devenir un lit influencé par Dynastie.
Mm-hmm. Est-ce qu'il va changer quelque chose ?
Il va changer quand même quelque chose.
Comme
la série Dynastie.
Comme hein. Oui, bien sûr, comme vous avez pu le voir, par exemple, dans ces pays que vous avez fréquentés pour cette dernière exposition.
Exactement.
Singapour, Kuala Lumpur,
Bangkok.
Ou encore Bangkok. Il est l'heure de laisser entrer votre invité. Il va rentrer dans le studio tout de suite. Et vous allez me le présenter. Pourquoi avez-vous voulu que cet invité soit avec vous aujourd'hui dans cette émission sur l'histoire de la photographie ?
Alors, je vous présente Christophe Peut. Qui est, justement on en a parlé, qui est la personne avec qui j'ai le dialogue d'artisan en artisan, parce que Christophe a été tireur photo chez Publimode, et maintenant il fait ce qu'on appelle la chromie, il travaille dans un laboratoire qui s'appelle Janvier, et qui est ma deuxième maison, et qui travaille sur la chromie des scans. Très important.
Alors pour quelqu'un qui n'y connaît rien, expliquez-nous ce que c'est que la chromie d'escale.
Christophe va expliquer.
Alors, Christophe, bonjour. Donc.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Et donc, expliquez-nous ce que c'est cette chromie d'escale. Et puis, plus largement, comment un travail comme le vôtre s'inscrit dans la longue histoire, j'imagine, de la photographie, parce que vous devez avoir des milliers, voire des millions de clichés dans votre œil.
Effectivement, le travail, bon, lui, a beaucoup évolué. Alors, comme vous avez dit, Françoise, on vient du laboratoire traditionnel. Donc, on a travaillé à l'agrandisseur, les mains dans la chimie. Mmh. Et après, la photo ayant évolué vers le numérique, on s'est mis derrière Photoshop, derrière des logiciels. Et on a travaillé l'image. On essaye de travailler l'image de la même manière, en fait.
Alors, la chromie des scans, pour répondre à la question.
La chromie des scans, en fait. Françoise travaillait en traditionnel à la pellicule. La première étape qu'on va devoir faire, c'est la numérisation. Mmh. On va devoir scanner au travers d'un scanner. Une fois que c'est numérisé, on obtient un fichier numérique qu'on va pouvoir travailler sur un ordinateur. Donc là, le travail va se faire derrière un écran. Avant, il se faisait sous l'agrandisseur avec le papier photo. Là, c'est le même travail, mais qui va se faire derrière l'écran.
Et néanmoins, c'est un travail un peu différent quand même, parce que j'imagine que la transposition nécessite des filtrages, des changements qui sont techniquement un peu différents.
Alors, bizarrement, non. La technique, oui, elle a changé. La technique, on est passé de l'analogique au numérique. Oui, la technique a changé. On était derrière un agrandisseur, la lumière rouge, l'ambiance de la chimie.
Ça permettait de faire des bons films dans lesquels on tentait de découvrir l'assassin avec le révélateur.
Puis il y avait le révélateur avec cette image qui n'était pas visible et puis qui devenait d'un seul coup visible. Ce côté-là n'existe plus. En revanche, le travail sur l'image, l'outil a changé, mais le travail dans Photoshop va rester le même. Alors, bien sûr, l'outil est mille fois plus performant. Avant, on maquillait avec nos mains, on utilisait la lumière, mais on allait être limité à un moment donné. Maintenant, Photoshop va nous permettre d'aller... c'est infini au niveau de la réalisation. En revanche, le raisonnement sur l'image, il reste le même. Et quand on va travailler une image dans Photoshop, on va la travailler de la même manière qu'on l'a travaillée sous l'agrandisseur.
Mais quand je disais vous devez avoir des millions de clichés dans l'œil, c'était pas simplement... pour dire ceux que vous avez tirés, mais vous devez, j'imagine, avoir une mémoire de la photographie. La photographe qui est en face de vous a une mémoire de la photographie et vous-même, vous devez en avoir une. C'est-à-dire vous souvenir d'un écho, comme on peut entendre un écho sonore d'une photographie des années 30 que vous auriez vue dans une exposition.
Ça. C'est exactement ça. Nous, on vient de l'analogique, on était bombardés d'images et on a une vraie culture sur la photographie. C'est-à-dire que quand on va travailler, quand on va faire un tirage, il y a toujours ce qu'on a vu, ce qu'on a fait avant, sur les photographes, on a des références au niveau des photographes. Alors malheureusement, aujourd'hui, avec le numérique, on va rencontrer chez les jeunes, et j'ai rien contre les jeunes, je ne suis pas vieux non plus, mais en revanche, il y a cette culture avec le numérique qui commence à disparaître. Donc cette notion du beau tirage, elle commence à disparaître. Et grâce à des photographes comme Françoise, ils savent l'importance qu'a le tireur. C'est un vrai couple, en fait. Photographe et tireur, c'est un vrai couple. Il y a une vraie relation.
Un peu comme le monteur au cinéma est nécessaire au cinéaste. Un peu comme le réalisateur à la radio ou la réalisatrice à la radio est indispensable au producteur de radio.
Le problème du numérique, c'est il a enlevé ce dialogue qu'il y avait entre un tireur et son photo, entre le photographe et son tireur, parce que maintenant on est derrière un écran, ça passe par un tuyau, et puis on va faire une photo, on passe la récupérer 48 heures plus tard, et on n'a vu personne. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais tirages, mais le vrai travail de collaboration, il nous faut des photographes.
On est encore nombreux à le faire.
Ils sont encore nombreux.
Françoise Huguier.
Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce travail extraordinaire qu'on avait comme un couple, comme ça, qu'on avait aussi bien sur les tirages traditionnels que maintenant avec l'achromie. Bon, l'achromie, comme vous disiez Christophe, c'est effectivement, je dis, referme exactement comme pour le tirage, refermer la photo, c'est-à-dire qu'elle soit un petit peu plus sombre dans le cadrage, comme ça, qu'on fasse ressortir plutôt le visage que les mains, la couleur de la peau. Mm-hmm. C'est très important. Le noir, pour que le noir soit profond, c'est exactement le même, pratiquement
c'est
la même chose
même
que pour les tirages.
C'est ultra important.
Et alors, ce que je voulais dire, parce que ça, c'est un petit couplet quand même, ce qui est très ennuyeux en ce moment, c'est que moi, je suis une femme de luxe. Hein. J'ai travaillé dans la photographie de luxe. Mm-hmm. J'ai été partout.
Vous êtes exposée dans le monde entier. Vous avez vu les WordPress photo.
J'ai eu une éducation très bien. Et moi, je tiens à garder ce couple. Peu importe le coup, je tiens à garder cet échange. Mais le problème, c'est que maintenant, quand vous avez des commandes ou pas commandes, ou les jeunes photographes ou les photographes moins jeunes, qui font leurs photos en argent, en numérique, ils font eux-mêmes le travail que fait Christophe. Il y en a qui se débrouillent très très bien, hein, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que ça arrange énormément les gens qui vous commandent soit des reportages, soit du corporate, ce qu'on appelle le corporate, ça les arrange énormément.
Le corporate, c'est pour les entreprises,
c'est
etc.
C'est pour les entreprises.
Et donc ça,
et on n'est pas payé.
Parce que
pour
ça fait des économies.
Et les photographes, voilà.
Ça fait des économies.
Voilà.
Mais alors, ça veut dire que on assiste maintenant un véritable changement. Vous seriez, alors je vais pas, c'est méchant que de dire ça, vous seriez la butte témoin d'un monde en train de disparaître ou en train d'évoluer tellement rapidement qu'au bout du compte, eh bien, cette histoire de la photographie, c'est tout récent, 40 ans, c'est rien.
Je vais vous dire, on a été quand même le pays où il y avait des grandes agences. Hein. Moi, j'ai vu la...
On avait Magnum,
on avait Sigma. On a
eu
Keystone,
l'agence Vue,
on
ensuite
a eu l'agence Vue qui existe toujours. On a été quand même, et pour le photojournaliste, on a été le numéro un. Moi, j'ai vu arriver, parce qu'à un moment, j'étais chez Raffo, et j'ai vu arriver le rachat. Et Raffo et Gamma, qui était quand même une grande agence, Gamma. Et Gamma, maintenant, est distribué par Getty. On sait que Getty vient d'être racheté, maintenant. Mmh. Je crois que c'est un fonds de pension aussi. L'AFP, maintenant, est distribué par aussi une grande agence internationale. Ce qui fait que maintenant, on n'est plus rien en France. On est pratiquement, c'est-à-dire que tout part dans les tuyaux, on ne sait pas où vraiment.
Et ça veut dire que d'une certaine façon, les photographes, et ça a été une des plaintes des années 90-2000, ne sont plus maîtres aussi de leur travail, ne sont plus maîtres de leur histoire, ne sont plus maîtres de ce qu'ils ont pu produire pour telle ou telle agence qui ensuite a été rachetée, puis rachetée, puis rachetée, au point qu'on ne sait plus très bien qui en est le propriétaire. C'est ce que vous voulez dire ?
Oui, ça. Et puis, alors, il y a une autre chose, c'est que quand est arrivé, par exemple, Internet, moi, je me souviens, quand je faisais des reportages pour Géo, il disait, est-ce qu'on on peut utiliser tes photos, elles vont être sur Internet nous, on disait oui, mais on voudrait être payé. Ah ben non. Et c'est le gros problème en ce moment.
Mais c'est-à-dire que...
Le gros combat en ce moment, c'est qu'on soit payé, parce que les journaux sur papier vont disparaître petit à petit et ils vont avoir nos photos gratuitement. Plus de droits d'auteur.
Alors ça, c'est une vraie question intéressante qui correspond à un des thèmes qu'on aura dans la semaine consacrée, dans cette semaine consacrée donc, à l'histoire de la photographie. C'est le rapport entre photographie amateur et photographie professionnelle. Comment se distinguer quand il y a 9 millions de photos postées sur Flickr de l'intronisation d'Obama en 2009, Françoise Huguier, et qu'on est soi-même photographe professionnel pour suivre la photographie et la cérémonie d'intronisation de Barack Obama,
par
exemple.
Moi, je pense que déontologiquement, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est que les photos qui sont prises par des professionnels, il y a une carte d'identité d'une photo. Ça existe. Les Américains commencent à le faire. Il y a une carte d'identité. Donc, on sait par qui a été fait la photo et comment elle a été faite. C'est une carte d'identité. Hein. C'est une empreinte digitale.
Comme auparavant, vous possédiez les planches contact et vous possédiez les copyrights de vos propres photographies.
Moi, je pense que si les gens qui utilisent de la photo, les utilisateurs de photos qui achètent des photos qui très, très peu chères maintenant, puisqu'on leur dit d'acheter très peu cher, je pense que s'ils n'ont pas cette déontologie, eh ben, à ce moment-là, le métier va complètement disparaître. Moi, je pense. Il va rester alors. Parce que ce qui reste, parce qu'il y a le photojournaliste, il y a les auteurs. Moi, je ne sais pas très bien où je me situe. Je suis entre les deux.
Entre les deux.
Voilà.
Vous êtes un peu photojournaliste et auteur aussi.
Et auteur aussi. Donc, moi, je pense que si on ne donne pas une moralité à ce qui se passe en ce moment, ça va être trop tard.
Vous avez dit, Christophe Peut, tout à l'heure, quand vous êtes entré dans ce studio, vous avez parlé de la boulimie des images ou l'explosion des images. Ça dit quoi, justement, sur la place que peuvent avoir les images choisies, les regards, le regard de Françoise Huguier ou de grands photographes comme elle, au milieu de nos regards, qui ne sont pas des regards si aiguisés que cela, Christophe Peut.
Mais oui, évidemment. Et là, en rebondissant sur ce que se dit Françoise, sur le métier de photographe qui se dilue. Qui se dilue complètement.
Tout le monde est photographe aujourd'hui.
Tout le monde est photographe. Et Françoise dit que tout le monde est photographe. Et nous, à notre niveau, on dit que tout le monde est tireur aussi, entre guillemets, parce que les images sont travaillées derrière un écran. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a Photoshop à la maison. Donc, si de toute façon ce métier-là disparaît, le nôtre, il va avec, il va disparaître aussi.
Mais ça n'est pas simplement une question dont on pourrait dire corporatiste ou syndicale. Qu'est-ce que ça induit sur la façon dont la photographie continuera à exister dans notre monde et qu'est-ce que ça induit sur la façon dont elle peut rendre ou ne plus rendre compte de ce qu'est ce monde, justement, Christophe Peut.
La photo telle qu'elle est rendue actuellement, on va la voir derrière les écrans, on va en être bombardé et on va oublier, petit à petit on oublie d'aller dans les galeries, d'aller dans les lieux d'exposition et de voir un vrai tirage, un travail de photographe avec le tirage qui va avec un vrai travail artistique.
Mais on pourrait dire, au bout du compte, beaucoup de vos photos sont exposées dans des galeries, mais des galeries d'art, quelquefois, Françoise Huguier, c'est-à-dire qu'on a vu une sorte de glissement désormais de la photographie qui est devenue une valeur refuge pour les fonds de pension, qui est devenu de l'art comme le reste de l'art, très cher, très coté. C'est, je crois, d'ailleurs une très grande photographie du Rhin d'un photographe allemand qui est la plus chère photographie au monde aujourd'hui. On voit bien qu'il y a là aussi le même glissement que pour l'art. Et au bout du compte, dilution d'un côté, exceptionnalisme de l'autre. Et quoi entre les deux?
Justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, alors même pour le photojournaliste, on s'aperçoit que les photographes, les jeunes photographes qui vont en Syrie par exemple, qu'est-ce qu'il leur reste? Parce que c'est plus acheté dans les journaux, c'était acheté à Paris Match, c'est plus du tout acheté. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est des expositions et de faire éventuellement des livres. C'est quand même pas le but. Donc, il y a un gros problème, c'est-à-dire que ces jeunes photographes partent tout nus. Parce qu'ils n'ont plus de commandes. Donc ça veut dire que s'il leur arrive un pépin comme celui qui est mort
en Syrie.
Donc ils partent comme ça. Donc ils partent tout nus. Donc ce qui veut dire que c'est pas le danger, c'est pas le risque qu'ils prennent, parce qu'ils prennent de toute façon des risques. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Pourquoi on les retrouverait que dans les expositions et dans les galeries? C'est aberrant. C'est aberrant.
Mais vous qui avez un sens, on l'a compris depuis le début de cette émission, de l'histoire très prononcée, Françoise Huguier, on pourrait dire, voilà, on a une date de naissance pour la photographie, aux alentours de 1830. L'art photographique commence à s'affirmer avec Nadar aux alentours de 1860. Et puis on pourrait se dire, voilà, aux alentours des années 2010-2020, la parenthèse se referme. Oui. On pourrait le dire.
J'ai entendu Danet dire tout le temps que le cinéma était terminé. Et à chaque fois, je disais, Serge Danet, et je disais, ah non, Serge, c'est pas possible. J'en ai reparlé avec Serge Toubiana, justement, l'autre jour. Non, c'est pas possible. Non, la photo, évidemment, qu'elle sera là. Mais en ce moment, on est dans un moment charnière. Et l'année prochaine, c'est quand même l'anniversaire de la création de la photographie. Et oui. Et donc, c'est, y a une espèce de magma comme ça. Et je pense que c'est le moment de faire très attention et d'organiser les choses pour le futur.
Et pourtant, il y a cette, alors on dit bombardement d'images, on peut dire aussi orgie de photographie.
C'est une orgie d'images, c'est plus qu'un bombardement, effectivement. C'est une orgie
Comment on se distingue dans ce flot ininterrompu, ce flux qui ne cesse plus
alors,
du tout?
Moi qui regarde pas mal les photos des autres, il y a des courants comme ça. Il y a des courants. On a un courant qui est parce que comme il y a pratiquement plus de commandes de journaux ou de reportages, parce que le reportage c'est un truc formidable. Donc ça raconte une histoire en images. Pas forcément, pas en texte, mais en images. Et donc, il y a des rythmes pour faire un reportage. Et là, avec l'arrivée de... on ne sait plus vraiment où mettre nos images, mais il faut quand même qu'on gagne notre vie. Donc, on va passer dans les galeries. Donc, on fait des séries. Et quand vous dites... moi, je me pose la question.
On fait des grands paysages.
On fait des portraits.
On fait des grands portraits.
On fait des grands portraits, c'est ça.
Et d'un seul coup, ça change la nature ou c'est simplement une autre économie
Oui, parce que maintenant, une bonne photo, c'est ça. Une bonne photo, c'est ça.
Alors que la bonne photo, c'est du 50 sur 60, c'est du 30 sur 40,
non,
ça peut
ça
être
dépend.
Du petit.
Non, ça dépend complètement
du sujet. Voilà.
Moi, j'avais un galériste à Berlin, il me disait toujours, Françoise, par exemple, l'Afrique fantôme, tu ne le tires pas plus de 40-60. Et c'est vrai. C'est fait. Il y a un format pour certaines photos. Par exemple, dans l'exposition, il y a le petit jeune K-pop là, qui a les yeux, qui a des lentilles.
Bah, il est sur le petit supplément de
la revue des deux mondes.
Il ressemble à une sorte de version asiatique d'Orange Mécanique.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Mais ils sont doux comme des agneaux, donc édulcorés. Enfin bon, bref. Et c'est pareil pour l'exposition. On se disait avec Christophe que finalement elle était trop petite. Elle aurait eu un impact plus fort encore si elle avait été plus grande.
Mais pourtant,
c'est un truc...
la grande tentation d'aujourd'hui, c'est le tableau paysage. C'est Christophe Peut, vous qui travaillez au tirage de ces grandes photos. Aujourd'hui, c'est quasiment le poster qu'on mettrait en fond de salle ou en fond de pièce chez soi, la grande photographie.
Là, vous parlez justement de cette boulimie de photos où on produit des quantités invraisemblables et il faut tirer grand. Vous retrouvez face à des tirages... d'un mètre 80, deux mètres de long. Mais quand c'est justifié, oui. Mais là, actuellement, il faut faire beaucoup de photos et il faut que ça soit immense, avec des systèmes de présentation modernes, sous plexiglas et tout. Mais la photo, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors qu'en revanche, le dialogue qui est entre un tireur et un photographe, c'est... On va se dire, voilà, cette image, elle est justifiée d'être sur tel format ou sur un plus petit parce que c'est plus intime, ou là, on peut y aller en grand. Il y a toujours ce paradoxe, la photo ancienne revient, on passe pour des vieux imbéciles, mais il faut que ce dialogue continue à exister, parce qu'on commence à montrer des images, ça ne ressemble plus à rien sur la quantité, sur les formats.
En fait, je me dis, en vous écoutant l'un et l'autre, Françoise Huguier, que ce qui vous intéresse, c'est la variété. Ce que vous détestez, c'est l'uniformité.
Je déteste ça. Oui.
C'est-à-dire qu'en fait...
Hors sujet.
Tous uniformisés.
À chaque fois, à l'école, on me disait toujours c'est hors sujet. Même en philo, on me disait toujours hors sujet. J'adore être hors sujet. Et effectivement, j'adore être à côté.
Et donc, trouver des personnes qui le sont aussi. C'est-à-dire que...
Décalé.
Quand vous faites de cette exposition qui a lieu ces temps-ci à l'Institut de France, donc sur ces intérieurs de Singapour, de Thaïlande, de Bangkok et de Kuala Lumpur, ce qui vous effraie, parce qu'on voit que ça vous effraie, c'est l'uniformité, c'est le Hello Kitty généralisé.
C'est
la middle class, c'est la, ou le Angry Birds, c'est la middle class qui, au bout du compte, poussait très vite... à des codes qui sont des codes de l'industrie, qui lui servent de référence.
Et qui sont des codes politiques aussi, hein. C'est voulu. Hein. Vous savez, dans un pays comme la Malaisie, où l'islam, au moment de l'indépendance, ne faisait pas partie de la Constitution. Ils ont eu un Premier ministre qui est resté 20 ans, qui a construit les deux tours, la pétrole, qui sont magnifiques. Il a remis l'islam dans la Constitution, et les Malais ont eu, il y a eu une loi pour favoriser les Malais. Et donc, dans ce pays, la nourriture est pas chère. C'est le cas des trois villes. Et en plus, les vêtements sont pas chers, parce qu'elles sont souvent faites en Malaisie ou en Chine. Tout ce qui est technique, les tablettes, l'ordinateur, etc. Je parle pas de... elles sont pas chères, parce qu'il y a un shopping mall qui est ouvert jour et nuit. Et les gamins y vont, et ça coûte pas très très cher. Ce qui veut dire que tout est calme. On a la maison, on a deux voitures. Et parce que le gouvernement favorise, puisqu'il aide pour acheter les deux voitures, il aide pour acheter la maison. Et pendant ce temps-là, tout est tranquille.
Donc un royaume des classes moyennes, mais d'une un mauvais goût généralisé, que vous craignez qu'il ne se répande sur l'ensemble de la planète, de l'uniformisation qui se répande sur l'ensemble.
C'est ce que disait Danet, mais je pense qu'il a peut-être raison. Et c'est vrai que c'est multiplié. C'est vrai qu'en Asie, c'est à un point... à mon avis, assez optimum.
Et pourtant, on doit pouvoir y trouver, si on cherche tout de même de l'individu, du singulier, comme vous avez réussi à trouver dans Communalca, Françoise Huguier, au sein d'une société qui se voulait totalement uniformisée, qui était la société post-soviétique et soviétique. Vous avez réussi à trouver des individus. Natacha n'était pas quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on essayait de distinguer, vous voyez bien l'individu derrière l'appartement communautaire.
Oui, mais l'histoire de l'Union soviétique et la littérature, le cinéma, fait que c'est complètement différent. En Asie du Sud-Est, c'est des sociétés qui se sont faites... Bon, il y a eu l'indépendance, pas pour la Thaïlande. C'est des sociétés qui se sont faites assez rapidement, comme ça, des classes moyennes. Et en plus, à l'école, il y a un système d'école... À l'école, surtout, il n'y a pas de critique. C'est-à-dire que nous, on est élevés comme ça. Qu'est-ce que analyser un texte, etc. Non, ce n'est pas enseigné du tout. Et c'est surtout pas...
Mais vous y avez vécu pour pouvoir avoir autant d'affirmations sur ce point-là?
Oui, parce que j'ai des amis quand même qui sont des résistants.
Mm-hmm. À cette uniformisation.
Ah ben oui, j'ai des amis qui sont résistants. Puisque le casting que j'ai fait pour les classes moyennes à Kuala Lumpur... On l'a fait grâce au Facebook d'un ami que j'avais exposé à Photoké, Pank, qui a une galerie et qui est un véritable militant, lui. Et qui a monté une association pour expliquer aux gens pourquoi il fallait voter. Et c'est avec lui, plus d'autres personnes, effectivement, que c'est leur discours. C'est aussi la classe moyenne, mais c'est aussi, il y a quand même des résistants.
Ce qui est étrange, quand on suit votre travail, au bout du compte, Françoise Huguier, c'est qu'on se dit qu'il y a un endroit où elle n'a pas mis le pied. Pourquoi n'a-t-elle pas mis le pied à cet endroit-là? Parce qu'au bout du compte, c'est peut-être la réponse aux questions que vous vous posez. C'est la Chine.
J'y étais.
Mais il y a longtemps.
Au moment de la révolution culturelle.
Ben oui, mais vous n'y êtes pas retourné depuis.
Je ne suis pas retourné depuis.
Parce qu'au bout du compte, ce que vous nous racontez sur ces périphéries de la Chine, que sont Kuala Lumpur, la Malaisie, la Thaïlande, le Japon, vous êtes allé depuis si longtemps. Pourquoi pas la Chine, au bout du compte, pour trouver la réponse à ces questions sur cette uniformisation?
Ce matin, j'entendais que... Parce que j'écoute la radio dans la nuit aussi, pour avoir les informations. Il n'y a pas que Obama. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ailleurs que la France et les États-Unis et l'Europe. Et j'entendais qu'effectivement, le grand problème de la Chine à l'heure actuelle, c'est de développer la classe moyenne. C'est le grand enjeu. Et quand j'ai commencé ce sujet sur les classes moyennes, tout le monde m'a dit « Dans les classes moyennes, il n'y a rien à photographier. »
Ben oui, on pourrait se dire « Il n'y a rien à photographier. »
Ben oui, c'est ce qu'on m'a posé comme question plusieurs fois. Et à mon avis, c'est une température de l'histoire d'un pays.
Et qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans ces photos que vous... dont vous pratiquez le tirage, justement, Christophe Peut de Françoise Huguier, en particulier dans ce sujet qu'elle expose ces temps-ci à Paris.
Nous, ce qu'on y voit quand on travaille pour des personnages comme ça, c'est qu'on rentre dans une histoire, il y a une vraie histoire, ça raconte quelque chose. Donc, c'est impossible, par exemple, de faire le travail que j'ai fait au niveau tirage pour ce qu'elle a fait sur Kuala Lumpur, si, comme vous expliquiez tout à l'heure, même nous, en tant que tireurs, on ne s'imprègne pas de cette histoire. Le gros problème de notre niveau à nous, au niveau de fabricants, de fabriquer une image...
Le niveau des rouges, le niveau des bleus, la main posée sur un coussin n'est pas la même selon qu'on vous a raconté cette histoire ou pas.
C'est exactement ça. C'est, tout à fait. S'il y a une histoire qui va avec l'image, si on ne connaît pas cette histoire, eh ben, sur la même image, si je n'avais pas ce dialogue avec Françoise et que Françoise donnait à tirer cette image ailleurs par quelqu'un d'autre, ça serait sûrement une belle photo, mais il manquerait l'histoire que ça raconte. Et c'est pour ça que nous, en citant le laboratoire Janvier, on est au contact du photographe et il faut qu'on s'imprègne de cette histoire.
C'est très flagrant sur une photo qui était dans l'exposition. C'est dans une cuisine, dans une famille chinoise. Et c'est dans une cuisine où alors là-bas, on retrouve ça dans pas mal de pays chauds. C'est-à-dire que c'est une fenêtre et en fait, il n'y a pas une vitre complète. C'est des vitres qui s'ouvrent comme ça. Un peu en éventail comme ça. Et là, c'était pratiquement le vaisselier de la famille. Et comme on n'a pas l'habitude de ce genre de photos ici, donc Christophe me dit qu'est-ce que c'est. Donc il l'avait travaillé déjà un peu trop sombre. Et ce qui était beau, c'est qu'il y avait, moi quand je l'ai vu, ma vision, c'est pour ça que c'est important que je parle avec Christophe. Parce que ma vision, moi, elle était beaucoup plus claire, la photo. On va dire surexposé, si on veut parler technique, elle était beaucoup plus claire. Elle était beaucoup plus claire. Donc, donc il y a un dialogue qui s'installe.
Et ça donne une photo effectivement absolument remarquable où la lumière passe à travers les Tupperware. Et d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un vaisselier ou est-ce que c'est une fenêtre?
Exactement.
Et c'était cette ambiguïté que vous vouliez
voilà,
traduire.
Voilà, exactement.
Et si cette histoire, on ne nous la raconte pas, ça, dans le tirage, on ne ressentira pas une ambiance, une teinte, une chromie, une couleur. Il faut qu'elle soit traduite par l'histoire du photographe.
Ben, je pense que vous avez fait un plaidoyer assez long et assez suffisant, justement, sur le travail moderne de la photographie, malgré l'arrivée de ces moyens modernes que sont le numérique, ne pas perdre la mémoire et l'histoire de la photographie. Merci Françoise Huguier. Je rappelle qu'on peut trouver votre exposition à l'Institut de France jusqu'au 25 novembre prochain, qu'on peut également vous lire avec un numéro de Photopoche qui vous est consacré avec l'ensemble de votre travail. Et c'est un numéro formidable qui est préfacé par Gérard Lefort. Et puis merci Christophe Peut d'être venu avec Françoise Huguier pour ouvrir cette semaine donc consacrée à l'histoire de la photographie. Et comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Florent Hanoun était à la technique et Anne Fleury à la réalisation.